Quelques notes de Scarlatti. Et déjà, on entend presque le sud, hein, le clavecin, le début d'un voyage qui nous emmène entre l'Italie, l'Autriche et l'Espagne. C'est le fil du concert d'Ida Pelliccioli ce samedi 20 juin, après-demain, 20h30, à la salle des fêtes de la Ferté-Loupière. A priori, pas de spectre d'annulation pour cause de canicule. Un récital de piano proposé par Acanthe Village d'Artistes, hein, intitulé Du Sud à Vienne. Au programme, donc, Scarlatti, Mozart, Blasco de Nebra et Schubert. Alors vous dites Scarlatti, je connais, Mozart, je connais, Schubert, je connais. Blasco de Nebra, c'est qui? Ben, on va voir ça. Réservation commandée auprès d'Acanthe, participation libre. L'invité du 17-19 ici au CER, eh bien, c'est la pianiste italienne Ida Pelliccioli. Bonsoir Ida.
Ici à...
Bonsoir, merci de me recevoir.
Ah bah avec grand plaisir, et puis merci de venir, c'est pas la première fois d'ailleurs dans Lyon, hein, pour nous jouer donc ces artistes. Là on vient d'entendre un extrait donc de Scarlatti, dont vous dites qu'une de ses sonates cite presque directement le flamenco. Expliquez-nous.
Oui, alors c'est vrai que Scarlatti, Domenico Scarlatti, est né à Naples en 1685, mais il a passé une grande partie de sa vie au service des familles royales portugaises et espagnoles, puisqu'il était le professeur de Maria Barbara, la fille du roi du Portugal, qui ensuite par alliance est devenue reine d'Espagne. Donc il l'a suivi à Séville puis à Madrid. Et donc ces deux cultures, napolitaine et ibérique, se retrouvent dans son œuvre, même si généralement il ne cite pas directement le folklore. Et dans le programme que je propose samedi, j'ai choisi une sonate qui est, pour ainsi dire, une exception, car elle cite directement un type, un style de flamenco, qui est la buleria, un style très festif qu'on danse en général à la fin des fêtes.
Il y a quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille quand vous avez dit qu'il a utilisé le folklore, mais de manière un petit peu détournée pour pas que ça s'entende trop, c'est bien ça ?
Plus par volonté créatrice, disons, qu'un artiste et un musicien de ce qu'on appelle l'art noble de la oui. musique classique élève les éléments du folklore, il s'en nourrit, il s'en inspire, mais ensuite il les retravaille pour offrir quelque chose de retravaillé et non de calquer simplement.
D'accord, donc c'était une intention purement artistique. Il y avait,
voilà,
il y avait pas, par exemple, on sait que Scarlatti, si en tout cas on s'en tient à quelques documents historiques, avait un peu le sens ou en tout cas l'intention de la vertu. Non, c'était vraiment une démarche artistique. Il y avait rien de spirituel ou de moral là-dedans.
Non, je ne pense pas, même si évidemment tous ces compositeurs, à travers les époques, se sont inspirés du folklore en ayant un très grand respect pour ces formes de musique. Mais encore une fois, leur rôle, leur éducation aussi musicale, les a portés à le réimaginer.
D'accord.
Et à en proposer leur vision.
Alors dans le programme, il y a aussi Blasco de Nebra, alors que vous prononcerez bien mieux que moi, j'ai jamais su rouler les R, je ne pose pas l'accent tonique.
Non.
Compositeur oublié pendant près de deux siècles. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le défendre? Qu'est-ce qu'on découvre chez lui dès les premières mesures?
Alors, ce qui est intéressant, vous disiez que le programme est un voyage du sud à Vienne et Blasco de Nebra se place au centre de ce programme qui va du baroque de Scarlatti jusqu'à l'école viennoise de Mozart et Schubert. Et en faisant des recherches pour choisir mon programme, parce que je lis toujours beaucoup sur les œuvres et les compositeurs que je sélectionne, ce qui m'a interpellée tout de suite chez Blasco, c'est son originalité, sa diversité. Des 30 œuvres qu'on a retrouvées, elles sont vraiment chacune très variées et font preuve d'une grande imagination. Et aussi, ce qui m'a interpellée, c'est cet aspect un peu avant-gardiste, car comme je le disais, s'il se sert de l'héritage baroque de Scarlatti, dont on sent tout de suite l'expressivité dans l'écriture, il le transcende. Et il explore un monde harmonique, beaucoup plus riche, plus mystérieux, qui a fait que certains musicologues l'ont comparé à des compositeurs qui ont vécu après lui, dont Schubert. Lui, il était contemporain, par contre, de Mozart. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup avec Blasco, c'est qu'il indique que ces œuvres sont écrites para clave y fuerte piano, ce qui veut dire pour clavecin et pianoforte. Donc c'est une époque charnière aussi dans l'histoire des instruments à clavier.
Et du coup, il aurait joué un rôle dans l'évolution hein, de cette période pour la musique. Et il sera au centre donc, de ce concert aux côtés de Scarlatti, Mozart, Schubert, donc Blasco de Nebra, avec du Sudavienne, Ida Pelliccioli, qui ne propose pas seulement récital, hein, mais une traversée donc, du clavier, de ses couleurs, de ses secrets, et de ses métamorphoses. Et ce concert, donc, c'est après-demain, 20h30, salle des fêtes de la Ferté-Loupière, avec un camp de village d'artistes, participation libre, réservation recommandée. Puis après Chicago, eh bien, Ida Pelliccioli va évoquer son lien particulier avec l'espace à Cannes, parce que ce n'est pas la première fois qu'elle vient. Et puis aussi, un petit mot sur ses concerts œnologiques quand le piano rencontre les grands vins de Bourgogne. Chicago, if you leave Mina avant Lola Young sur Ici au Serre. Sibelius sous les doigts de la pianiste italienne Ida Pelliccioli, invitée du 17-19 ici au Serre. Ida Pelliccioli qui est donc en concert après-demain à 20h30 samedi à la salle des fêtes de la Ferté-Loupière avec Acanthe Village d'Artistes. C'est son troisième concert à Acanthe et on la remercie. C'est pas anodin parce que ici, on est loin hein, des très grandes salles anonymes. Hein, l'artiste joue près du public. On peut échanger après le concert dans un lieu qui crée une relation particulière. Alors Ida Pelliccioli, revenir une troisième fois à Acanthe, c'est pas juste refaire une date pour vous. Qu'est-ce qui change quand on retrouve un public, des organisateurs, un lieu où un lien s'est déjà créé?
Oui, alors évidemment, retrouver des organisateurs pour moi qui gère ma carrière entièrement toute seule, c'est toujours un plaisir parce qu'il y a un lien direct avec eux et une relation de confiance mutuelle qui s'installe lorsqu'on renouvelle une collaboration et au fil des années même une relation amicale avec certains d'entre eux. Et au même titre, retrouver un public est toujours un grand plaisir, car ce même lien s'est créé avec les spectateurs. Et en même temps, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que en revenant à chaque concert, il y a aussi des personnes qui ne m'ont jamais écouté encore et qui me découvrent pour la première fois. Voilà, donc le public se renouvelle aussi.
Alors peut-être que vous reviendrez une quatrième fois, je l'espère, parce que vous allez voir, votre parcours est assez singulier. Hein. Alors d'abord pianiste, professeur au conservatoire, mais aussi formation littéraire à la Sorbonne. J'imagine que vous lisez souvent des biographies d'artistes et de musiciens, histoire grecque antique. Et maintenant, un projet de concert œnologique, c'est-à-dire associer un grand vin à un programme musical. Alors, voilà qui peut sonner très bourguignon, grande terre viticole. Comment vous choisissez le lien entre un vin et une œuvre ?
Oui, alors comme vous l'avez compris, je suis une personne très curieuse et je nourris mon interprétation et mes degrés de lecture avec des connaissances qui sont directement ou indirectement liées à la musique. Et une de mes dernières passions, c'est l'œnologie. Je suis en train de suivre des études, une certification internationale, le WSET, dont j'ai déjà atteint le niveau 3. Et donc, en ayant des connaissances œnologiques, mon approche dans cette association entre vin et musique est technique, on pourrait dire philosophique, plus que sensorielle. C'est-à-dire que j'étudie les correspondances entre les processus d'écriture des compositeurs et l'art de la vinification et les particularités d'un terroir, par exemple. Donc il s'agit d'une expérience globale, sensorielle, évidemment, mais aussi intellectuelle. Et à travers une compréhension conceptuelle de ces deux univers, le public découvre une palette d'approches plus riche en matière non seulement d'écoute, mais aussi de dégustation.
Eh bien, écoutez, vous reviendrez alors, parce que nous, on a envie de savoir, avec par exemple, un grand Chablis, à quoi ça correspond avec votre piano. Alors, je le dis de manière très triviale, hein, mais c'est pas moi l'artiste.
C'est très intéressant. Évidemment, le programme musical reste au centre du projet. Le style des vins est fixe pour chaque programme musical, mais les références exactes, les domaines choisis, changent pour chaque concert.
D'accord.
Ce qui fait aussi l'unicité du moment et de l'événement, l'exclusivité de chaque événement.
Ida Pelliccioli, donc en concert ce samedi 20 juin à 20h30 à la salle des fêtes de la Ferté-Loupière avec à Cante Village d'artistes, un récital intitulé Du Sud à Vienne avec Scarlatti, Mozart, Blasco de Nebra et Schubert. Participation libre, réservation recommandée. Merci Ida Pelliccioli d'être passée dans le 17-19. Oui.
Merci à vous, merci beaucoup.
Ici au CERF, au plus près des artistes qui font voyager la Bourgogne.